Groupe de travail Lutécium, Paris, Jacques Lacan, ou pire, 15 mars 1972, enregistré le 24 mai 2000.
Quelque chose qui situe intérêt, discours pour autant qu'il est lui-même frayage du discours analytique, l'intérêt du discours à passer pour la vie. Mais d'abord, prenez-en le champ en gros, désigné donc de l'union du dialecte. Un mot qui ne s'est jamais dit, qui a pourtant son intérêt, donner une note d'éveil pour vous chaque fois que l'un sera intéressé, et qu'à le prendre ainsi, sous une forme épithète, on vous rappellera que Freud, que Platon d'abord, c'est que de sa nature, il a des pentes diverses. Dans l'analyse, on se voit parler, qui ne vous échappe pas, je pense, à vous souvenir de ce qu'il préside à cette bizarre assimilation de l'errance à ce qui tente à coaguler. Sous prétexte que le corps, c'est très évidemment une des formes de l'homme, que ça tient ensemble, c'est un individu, sauf accident. Il est ce singulier, promu par Freud, c'est bien redire ce qui met en question, qui a avancé par lui des ronces et Thanatos, si elle n'était pas soutenue d'une autre figure qui est très précisément celle où échoue le rapport sexuel. Savoir celle de l'un et de pas un, c'est pas savoir zéro, on voit mal la fonction pour tenir ce couple stupéfiant. Il est de fait qu'il sert au profit d'un certain nombre de malentendus, d'épinglas, la pulsion de mort, ainsi dite à tort et à travers, mais il est certes qu'en tout cas, l'un le saura. Dans ce discours sauvage qui s'institue la tentative d'énoncer rapport sexuel, il est strictement impossible de considérer la copulation de deux corps comme n'en faisant qu'un. Il est extraordinaire à cet égard. Le banquet de Platon, alors que les savants ricanent par Ménide, que Platon soit pris au sérieux, comme représentant quoi que ce soit qui concerne l'amour. Certains se souviennent peut-être encore que j'en ai usé dans une année exactement celle précédente que j'ai avancée tout à l'heure, l'année 61-62. C'est en 60-61 que j'ai pris le banquet pour terrain d'exercice. Je n'ai rien songé à en faire d'autre qu'à en fonder le transfert. Jusqu'à nouvel ordre, le transfert est quelque chose de l'ordre du 2 peut-être à son horizon. Pas passer pour population. pense tout de même avoir un petit peu indiqué alors le mode de dérision sur lequel se déroule cette scène, très probablement désignée comme tachique, que soit Aristophane, comme eux qui inventent la fameuse bipartition de l'être qui, de prime abord, il était tête à deux dos, qui se tirait serré, hein. On sait la jalousie de Zeus, qui en fait deux à partir de là, c'est assez dit dans quelle bouche est mise cet énoncé pour indiquer qu'on s'amuse. On s'amuse bien, d'ailleurs. Le plus énorme, c'est qu'il n'apparaisse pas que celle qui couronne le discours, la nommée Diotime, ne joue pas un autre rôle, puisque ce qu'elle enseigne, c'est que l'amour de ne tient qu'à ce que l'aimé, qu'il soit homo ou hétéro, on n'y touche pas. Il n'y a que l'Aphrodite uranienne qui compte. On n'est pas précisément dire que ce soit l'un qui règne sur les roses. Ce serait déjà à soi tout seul une raison d'avancer quelques propositions déjà frayées d'ailleurs sur l'un. Il n'y avait pas en outre ceci, c'est que dans l'expérience antique, le premier pas, c'est d'y introduire un analyste pour une aide, de faire le pas d'entrée, moyennant quoi, il s'agit de cet un, le premier mode de sa manifestation est évidemment de n'être qu'un entre eux. Voyez en quoi ce qu'il manifeste, mais bien sûr sans s'en percevoir, c'est très précisément ces autres. Il n'a rien à faire avec eux. C'est pour ça qu'avec l'analyste, il voudrait être le seul pour que ça fasse deux. Qui ne sait pas ce dont il s'agit, c'est justement qu'il s'aperçoive que deux, c'est cet un qu'il se croit et où il s'agit qu'il se divise. Alors donc, il n'y a que l'un. Je voudrais écrire ça aujourd'hui, je suis pour ça. C'est bien qu'il y a le zère, qui est une amorce de ce côté-là. Mais c'est pas ça. En français, on peut dire Yona. Chose très étrange, je n'ai pas réussi, on va dire que ça ne soit pas trouvable. Mais enfin, comme ça, de façon assez hâtive dont je procède, malgré tout. Donc, si là, en logique, j'en sais un petit quelque chose, il faut bien que je me presse. Le temps presse. Pas réussi à voir, à trouver quelque chose. Simplement, je vais dire ce que j'ai consulté, le littré, le Robert, j'y étais, le Damourette des Pichons, et quelques autres, quand même. L'émergence historique, le dictionnaire, le Bloc et Barbour, l'émergence d'une formule aussi capitale que il y a. Qui veut dire ça? Il y en a. C'est sur le fond de l'indéterminé que surgit ce que désigne la pointe, proprement parlé, l'Ilia. Curieusement, il n'y a pas d'équivalent, c'est vrai. L'équivalent courant. Nous appellerons les langues antiques. Au nom de quoi, justement, se désigne que le discours vient, comme dit, et comme le démontre Parménide, le discours sachant. C'est bien en ça que le discours analytique peut présenter une émergence. Il s'agirait peut-être que vous en fassiez quelque chose, si tant est que des disparitions aux yeux de l'esprit, bien sûr, toujours présent, possible, si imminente, dès ma disparition, on s'attend dans le champ à la véritable pluie d'ordures. Qui déjà s'annonce, parce qu'on croit que ça ne peut plus tarder, dans la trace de mon discours. Il vaudrait peut-être mieux que ce qu'on forme. Ceux qui pourraient donner à ce frayage une suite, donc heureusement aussi, quelques prémices, parce que passe son temps à me casser les pieds et les oreilles avec le fait de savoir le rapport du discours analytique avec la révolution. C'est peut-être justement lui qui porte le germe d'aucune révolution possible. Est-ce qu'il ne faut pas confondre la révolution avec le vague à l'âme qui peut prendre ça à tout bout de champ sous cette étiquette? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a donc ces surfonds quelque chose qui n'a pas de forme. Quand on dit il y en a, ça veut dire d'habitude, il y en a dû, ou il y en a des. On peut même ajouter de temps en temps à ce des qui pensent, des qui s'expriment, des qui racontent, machin comme ça. Ça reste que un fond d'indétermination. La question commence de ce que ça veut dire de l'œil. Car dès que l'œil est énoncé, les Newton n'est plus là que comme un mince pellicule, n'est-ce pas, sur ce qu'il en est de ce fond. D'où est-ce que cette aide surgit? C'est très précisément ce que la première hypothèse, Platon essaye d'avancer, à dire comme il peut, faute qu'il ait à sa disposition d'autres mots, aye en estime, s'il est un. Car estime, l'option suppléante, de ce qui ne s'accentue pas comme en français il y a, et ce qu'il faudrait sûrement traduire, je prends le scrupule qui y arrête les traducteurs, faudrait sûrement dire s'il y a le est à choisir, mais ce qui est certain, c'est que Platon son peuple n'a rien à faire avec ce qui englobe. Il y a même quelque chose de remarquable, c'est que ce qu'il en démontre immédiatement, c'est que il ne saurait avoir aucun rapport avec quoi que ce soit dont il a fait son mille formes. La recension métaphysique qui s'appelle en tant qu'expérience, c'est, elle est partout, le plus grand, le plus petit, le plus jeune, le plus vieux, etc., etc., incluant l'inclus et tout ce que je voudrais, cette espèce. Ce qu'il commence par démontrer, très précisément ceci, qu'apprendre l'inclus par le moyen discursi, et qui est là interrogé? Ce n'est évidemment pas le pauvre petit, le cher Mignon, j'ai nommé Aristote, si vous signerez bien, quand il semble difficile de croire que ça puisse être à ce moment-là celui qui nous a laissé sa mémoire, il est bien clair que, comme dans tout dialogue platonicien, il n'y a pas trace d'interlocuteur. Ça semble s'appeler dialogue, pour illustrer ce que j'ai depuis longtemps pensé. Le dialogue, justement, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas. Présente au fond du dialogue platonicien, une bien autre présence humaine, disons-le, que dans bien d'autres choses qui sont écrites depuis. Il nous en faudrait pour témoignage que ceci, que dans les premières approches, la façon dont se prépare ce qui constitue l'hoste, ce que j'appellerais l'entretien préliminaire, celui qui nous explique, comme dans tous les dialogues, comment c'est arrivé que cette chose folle qui n'en semble en rien à quoi que ce soit qu'on puisse appeler dialogue, c'est là qu'on sentir si déjà on ne savait pas par le commun de la vie, on n'a jamais vu un dialogue à vous dire à quoi que ce soit. Il s'agit dans ce qu'on appelle dialogue, cette littérature qui a sa date, justement, de serrer quel réel qui peut faire croire, qui donne l'illusion de parler à quelque chose en dialoguant avec quelqu'un. Alors ça vaut qu'on prépare le truc disent de quel zinzin il s'agissait. Le Parménide et sa clique, n'est-ce pas, qui est là, fallait rien moins que ça pour vous, pour que puisse s'énoncer quelque chose qui fait parler qui? Eh bien, justement, là. À partir du moment où vous le faites parler, là, ben, ça vaut la peine de regarder à quoi ça sert, celui qui tient nos crachoirs, n'est-ce pas? On peut que dire des trucs comme ça à Toto, à Linquet, ou Garoune, le Tidet, à la Calette, oh là là, encore trois fois pour vrai que vous le disiez, enfin, n'est-ce pas? C'est ça le dialogue. Naturellement, quand c'est l'un qui parle, ce qui est curieux, c'est la façon dont Parménide l'introduit. Le, il lui passe la main dans le dos. Il lui explique, cher mignon, si parler, cher petit amoureux, tout cela n'est que bavardage. Parce que ne me traduisez pas adolescia, n'est-ce pas, par l'idée qu'il s'agit de ça. Je dis ça pour ceux qui ont dit, surtout comme en face de page, qu'il s'agit de se conduire comme des innocents, comme des genoux, pour les confondre. Ils ne sont pas nommés comme ça, les genoux. Dans le texte grec, adolescia, ça veut dire bavardage. Et on peut considérer que c'est là que chose, préfiguration. La préfiguration de ce que nous appelons, n'est-ce pas, dans le langage, comme ça, je vais essayer par ce qu'on a pu, la phénoménologie ouverte, à ce moment-là, avoir à la portée de sa main, ce qu'on a traduit par association libre. Naturellement, l'association pas libre, si elle est un intérêt, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose que bavardage. C'est fait pour apprivoiser le mieux. L'association, il est bien entendu qu'elle y est. Je ne vois pas que ce serait son essai. Elle était libre. Le bavardage en question, il est certain qu'il ne fait aucun doute. Comme ce n'est pas quelqu'un qui parle, que c'est le de voir là à quel point c'est lié. Parce que c'est très démonstratif. Avec les choses dans ce relief, ça permet de situer deux choses. Et en particulier, temps qui se franchit. À Platon. Parce qu'il y avait déjà un pas franchi par Parménide dans ce milieu où il s'agissait, en somme, de savoir ce qu'il en est du réel. En somme, toujours tout cela. Je vois qu'on ait dit que c'était l'air, l'eau, la terre, le feu, qu'après ça, on n'avait plus qu'à penser, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui s'est avisé. Le seul facteur commun, toute cette substance dont il s'agissait, c'était d'être disciple. C'est ça le mal. C'est différent. C'est différent. C'est de montrer que dès qu'on essaie de dire d'une façon articulée ce qui se dessine pas mieux qu'une association libre. Mais ce qui se dessine, c'est difficulté. Et le réel, c'est dans cette voie qu'il faut le chercher. Eidos, qu'on traduit improprement, forme, est quelque chose qui promet le serrage, le cernage de ce qui fait béance dans le dit. D'autres termes, Platon était pour tout dire lacanien. Naturellement, on ne pouvait pas le savoir. En plus, vous êtes un peu débile. Il ne facilite pas les choses. Ce qui sûrement l'a aidé. J'appelle débilité mentale le fait d'être un être parlant ne soit pas solidement installé dans un discours. C'est ce qui fait le prix du débit. Il n'y a aucune autre définition qu'on puisse donner. Sinon, d'être ce qu'on appelle un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'entre deux discours, il flotte. Pour être solidement installé comme sujet, il faut s'en tenir. Bien alors savoir ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on est en marge qu'on sait ce qu'on fait. De sorte que, pour ce qui est de son cas, ça lui a permis absolument d'avoir un cas. Il ne faut pas croire son temps, les choses fussent pas prises dans un très solide discours et il en montre le bout de l'oreille quelque part dans les entretiens préliminaires de ce Parménide. Tout de même lui qui l'a écrit, on ne sait pas s'il se marre ou non. Enfin, il n'a pas attendu Hegel pour nous faire la dialectique maître et esclave. Je dois dire que ce qu'il en énonce est d'une autre assiette que ce qu'avance toute la phénoménologie de l'esprit. Non pas qu'il conclue, mais qu'il donne les éléments matériels. Il avance, il le peut parce que son temps s'est pas chiqué. On se demande si c'était mieux. Plutôt que pire, de penser que les maîtres et les esclaves s'étaient là affirmés. Ça permettait de s'imaginer que ça pouvait changer à tout instant, et devait se changer à tout instant. Quand les maîtres étaient faits prisonniers d'une esclave, et quand les esclaves étaient affranchis, grâce à quoi Platon s'imagine, et il le dit dans les préliminaires, que l'essence même, l'éidos, est celle de l'esclave, ben on peut considérer qu'elle n'a rien à faire avec ce qu'il en est réellement. Le maître et l'esclave sont entre eux dans des rapports qui n'ont rien à faire avec un rapport essentiel. C'est bien dans ça qu'il est un peu dit. C'est que nous avons pu faire élan, n'est-ce pas? Se perd toujours par une certaine voie. Quand il est curieux qu'on ne voit pas à quel point elle promet la suite, et qu'on est tous frères. Il y a une région comme ça de l'histoire, du mythe historique. Je veux dire du mythe en tant que. Il est l'histoire. J'ai vu qu'une fois, chez les Juifs. On sait la fraternité, à quoi ça sert. Ça a donné un grand modèle. Elle est faite pour qu'on vende son frère, ce qui n'a pas manqué de se produire à la suite de toutes les subversions comme ça qui sont dites tournées autour du discours du maître. Il est tout à fait clair que l'effort dont Hegel s'exprime au niveau de la phénoménologie, la crainte de la mort, la lutte à mort de pur restant, et je t'en raconte et je t'en remets. Moyennant quoi, c'est l'essentiel à obtenir. Il y a un esclave. Seulement, à tous ceux qui ont des frémissements comme ça, sans général, je demande, qu'est-ce qu'il peut faire, puisque l'esclave survit de nous, qui ne vienne pas tout de suite après la lutte à mort de pure prestance pour lui, et la crainte de mort qui change de camp. Tout ça ne subsiste, n'a chance de subsister qu'à condition qu'on voit très précisément ce que Platon écarte, mais qui sera jamais. Au nom de quoi? Parce qu'on ne peut pas, mon Dieu, sonder son cœur, peut-être débilité mentale simplement. Il est clair, au contraire, que c'est là la plus belle occasion. Ce qu'il en est de ce qu'il appelle Metekel, la participation. Jamais l'esclave n'est esclave que de l'essence du maître. De même que le maître, sans lui, peut-être sa l'essence, appelez-le comme vous voudrez. J'aime beaucoup mieux l'écrire S-E, le signifiant maître. Quant au maître, il n'y avait pas de savoir de l'esclave, qu'est-ce qu'il en prête. M'attarde pour me dire l'importance de cette chose invraisemblable qui en est là. C'est là. Cicéron que procède toute la suite rhétorique. Alors, déjà, parce que déjà 0 à 1, ça fait 2. Parce qu'il y aura 0, 1 et 2 avant et ainsi de suite. Et ceci très précisément jusqu'au premier des Alephs.
Parce que les rapports de chacun ensemble
qu'il y a un encens. Et de ce fait, ça veut dire que vous en mettez un. Ce qui aboutirait à, en effet, augmenter considérablement le nombre de combinaisons de phases. Ouais. Au niveau du triangle, si je vous avais mis seulement trois, ça aurait fait trois combinaisons seulement. Vous en avez tout de suite six. Si vous prenez l'ensemble pour un, justement, ce dont il s'agit, c'est de s'apercevoir là d'une autre dimension de l'un. J'essaierai de vous illustrer la prochaine fois le triangle. En d'autres termes, l'un donc n'a pas toujours de sens. Ni l'absence, par exemple, de ce un, l'ensemble vide. Une chose curieuse, à notre numération d'éléments ajoutera deux. Je vous montrerai pourquoi et à partir de tout. Néanmoins, nous approchons déjà quelque chose qui, à ne pas partir du tout de l'un comme tout, mais que l'un, dans son surgissement, n'est pas univoque. En d'autres termes, nous renouvelons la dialectique platonicienne, qui vient ainsi prétendre vous mener quelque part à poursuivre par cette difficulté de l'un. Encore faut-il voir si elle tient. C'est un Platon si bien distingué l'être. C'est assurément que l'être, lui, est eux, toujours, en tous les cas. Mais que l'un sache être comme elle, voilà, qui est dans le parvenir parfaitement démontré. C'est bien, historiquement, d'où est sortie la fonction de l'existant. Ce n'est pas parce que le un n'est pas qu'il ne pose pas la question. Et il la pose d'autant plus pour que ce soit à jamais. Ils doivent s'agir existant. Ce sera toujours autour du un que la question tourne. La chose dans Aristote ne s'approche timidement au niveau des propositions particulières. Aristote s'imagine qu'il suffit de dire que quelques seulement, pas tous, sont comme ci ou comme ça. Donc ça les distingue. C'est qu'en les distinguant de ce qui lui est comme ça, celles-ci ne le sont pas, par exemple, ça suffit à assurer leur existence. C'est bien en quoi l'existence, déjà dès sa première émergence, s'amorce tout de suite, s'énonce de son inexistence corrélative. Il n'y a pas d'existence, sinon sur fond d'inexistence et inversement, existerait de tenir son soutien que d'un dehors qui n'est pas. C'est bien là dont il s'agit. Là. Car à la vérité, d'où surgit-il? En un point, Platon arrive à le serrer. Faut pas croire que ce soit comme il semble. Seulement à propos du temps. Il l'appelle temps exaïphus. Traduisez ça comme vous voudrez, c'est l'instant, c'est le soutien. C'est le seul point où on peut subsister, c'est bien toujours. Où toute élucidation du monde, Dieu sait que la vie c'est assez vrai pour donner. Il y a d'autres alephes que celui des nôtres. Où celui-là, cet instant. Là, c'est ça qui me serait la question. C'est bien ce qui se trouve décisif au niveau d'un aleph supérieur, au niveau continu. L'un, donc, ici précisément, semble se perdre et porter à son compte ce qu'il en est de l'existence jusqu'à confiné fait trouver un mort porté à Steak-Siphonès, dans Aristote lui-même, de m'apercevoir qu'en fin de compte, il y a eu émergence de ce terme d'exister. Quelque part, dans la physique, vous pouvez trouver surtout ce qu'il donne, c'est quelque part le livre 4 de la physique d'Aristote, je ne vois pas sur le papier comme vous voyez. Aristote le définit comme justement quelque chose qui aime un instétéro chrono dans un temps qui ne peut pas être senti via microtête en raison de son extrême vitesse. Et ton extase, je ne sais pas si ailleurs, dans cet endroit, quatre physique, le terme extane est proféré dans la littérature. Mais il est clair qu'il vient un participe passé de l'aoriste second stélie, cet aoriste qui se dit esther, c'est stane, et je ne sache pas qu'il y ait de verbe ek sté. C'est à comprendre. Quoi qu'il en soit, le systéré est déjà là. L'être stable. Être stable à partir d'un dehors. Donc extable. Ce qui n'existe qu'à n'être pas. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est cela que je vais ouvrir sous le chapitre général de l'Union. Et je vous en demande pardon si j'ai choisi l'Union